Radio Prague, les informations.
Václav Klaus exhorte le gouvernement tchèque à ne pas renflouer le Fonds monétaire international, appelle au soutien des dissidents du monde entier. Le parquet de Prague aurait retardé la procédure dans l'affaire de la privatisation de la société minière de Most. La République tchèque ne devrait pas accorder une somme de 90 milliards de couronnes, quelque 3,5 milliards d'euros, pour renflouer le Fonds monétaire international et aider les pays les plus endettés de la zone euro, estime le président tchèque Václav Klaus. Dans une déclaration pour Český rozhlas, radio publique tchèque, le président souligne que ce serait un acte irresponsable du gouvernement tchèque dans une situation où la République tchèque n'arrive pas à liquider sa propre dette. Le leader spirituel tibétain, le Dalai Lama, l'ancien président tchèque Václav Havel, le fondateur de l'association Médecins sans frontières Bernard Kouchner, la lauréate iranienne du prix Nobel Shirin Ebadi, le dissident chinois Yang Jianli et le philosophe français Stéphane Hessel ont signé à Prague une déclaration appelant la communauté internationale à manifester son soutien aux dissidents du monde entier. Le Dalai Lama est arrivé à Prague pour y passer 3 jours sur l'invitation de son ami, l'ancien président Václav Havel. Certains procureurs du parquet supérieur de Prague auraient retardé la procédure dans l'affaire de la privatisation de la société minière de Most, Mostecká uhelná. Telles sont les conclusions du contrôle de la coopération entre le parquet tchèque et les organes de la justice suisse que le chef intérimaire du parquet supérieur de Prague, Stanislav Melch, a présenté au ministre tchèque de la justice, Jiří Pospíšil. Selon le ministre, une procédure disciplinaire sera ouverte contre les procureurs impliqués dans cette affaire. Le procureur général de République tchèque Pavel Zeman a ordonné la révision de l'affaire du prince de Qatar, Hamid bin Abdal Thani. Ce dernier a été condamné en 2005 à Prague à une peine de détention de 2 ans et demi pour abus sexuels sur mineurs. Le prince n'a pas cependant purgé sa peine en Tchéquie, mais a été extradé au Qatar. La police doit enquêter maintenant sur les décisions de l'ancien ministre de la Justice Pavel Niemetz et d'autres fonctionnaires qui ont permis l'extradition du prince et sur lesquels plane le soupçon de corruption. L'industrie aéronautique tchèque est en passe de conclure un des plus grands contrats de ces dernières années. Il s'agit du projet de production d'un nouveau type d'avion. Le projet doit être réalisé par un consortium de sociétés tchèques, chinoises et américaines. Une information du directeur de l'agence Czech Invest, Miroslav Křížek. Le mouvement STAN a désigné 2 candidats au poste de ministre de la Culture qui sera vacant après la démission du ministre Vladimir Besser. Il s'agit de la députée Alena Hanáková et du recteur de l'Académie des Arts, Ivo Matej. Une information du président du mouvement STAN, Petr Gazdík. C'est maintenant le ministre des Affaires étrangères et président du parti Top 09, Karel Schwarzenberg, qui doit trancher et choisir entre les 2 candidats. Météo, ce lundi fête de toutes les Simonas, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été couvert sur une majeure partie du pays, avec des températures maximales comprises entre 0 et 4 degrés. Mardi, le temps en République tchèque sera variable avec des passages pluvieux. Les températures se situeront entre 5 et 8 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Le Dalai Lama est en République tchèque depuis samedi à l'invitation de son ami, l'ancien président Václav Havel. À cette occasion, il s'est exprimé sur de nombreux sujets comme la Chine et les droits de l'homme. Kaya Makele est un auteur de théâtre franco-congolais. Fasciné par les mythes, il s'est inspiré de celui de Londine, Rusalka, l'a revisité et en a fait une pièce présentée à Prague samedi dans le cadre de lectures scéniques. Et puis on passera au sport en deuxième partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. Je vous le disais en titre, le leader spirituel tibétain, le Dalai Lama, vient de passer 3 jours en République tchèque à l'invitation de son ami, l'ancien président Václav Havel. À Prague, le Dalai Lama a également rencontré le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, discuté avec les étudiants de l'université Charles et donné une conférence au Palais des Congrès. Une visite étroitement suivie et critiquée par les autorités chinoises, Magdalena Rozenkova.
Le chef spirituel tibétain est venu à plusieurs reprises en République tchèque. Sa dernière visite en date s'est déroulée il y a 2 ans à l'occasion d'une conférence sur la démocratie en Asie. Cette fois, le Dalai Lama est arrivé symboliquement le 10 décembre à l'occasion de la journée des droits de l'homme. Il a d'abord été accueilli par Václav Havel, encore très affaibli par l'infection pulmonaire dont il a été victime au printemps dernier, mais toujours d'esprit clair et pétillant selon le Dalai Lama. Nous écoutons Oldřich Černý de la Fondation 2000 qui a co-organisé la visite du Dalai Lama à Prague.
Václav Havel poděkoval jeho svatosti za to, že přijel do země.
Václav Havel a remercié sa sainteté, le Dalai Lama, d'être venu dans ce pays où il est très apprécié du public, mais un peu redouté des hommes politiques. Ses relations plutôt réservées s'expliquent par la montée en puissance de la Chine depuis la dernière visite du Dalai Lama à Prague il y a 2 ans.
Václav Havel, qui a toujours manifesté un grand intérêt pour la cause tibétaine, a souligné une fois de plus combien il était dangereux de mettre en exergue des intérêts économiques dans les relations avec la Chine au détriment du respect des droits de l'homme. Propos universel et très d'actualité dans le contexte de la récente visite à Prague du président russe Dmitri Medvedev. Le chef spirituel tibétain, dont le pays est occupé depuis 60 ans par la Chine, a déclaré devant les étudiants de l'université Charles de Prague que les succès économiques de Pékin étaient entachés par la méfiance et un manque de respect. On l'écoute.
La Chine cherche à être respectée dans le reste du monde, mais le respect dépend beaucoup de la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui manque vis-à-vis d'un régime totalitaire.
L'ambassade de Chine à Prague a à son tour déclaré que le Dalai Lama menait à l'étranger des activités visant à diviser le pays et à fragiliser son unité nationale. D'autres personnalités ont participé à ce débat pragois sur les droits de l'homme, parmi lesquelles l'iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, ou encore le français Stéphane Hessel, auteur du best-seller intitulé « Indignez-vous ». Dimanche, le Dalai Lama a rencontré à titre privé le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg avant de donner devant la salle archipleine du Palais des Congrès une conférence intitulée « À la recherche du bonheur dans un monde incertain ». N'oubliez pas votre expérience du régime totalitaire et n'oubliez pas non plus qu'à présent, vous êtes tenu d'aider les gens qui se trouvent dans une situation similaire. Tel est un des principaux messages que le Dalai Lama a adressé aux Tchèques lors de sa visite.
Samedi soir, le théâtre Navena Hradec à Prague présentait une lecture scénique de 5 dramaturges français, dont celle de la pièce Sortilège de Kaya Makele, auteur franco-congolais. Il était à Prague pour présenter son texte qu'il a écrit dans la capitale tchèque à la faveur du programme Écriture du Monde. Il nous en dit plus.
Sortilège est un drame. Un drame, je dirais, un drame familial. Un drame autour de l'exil. Tous les personnages qui sont dans ce drame-là sont, de mon point de vue, exilés de l'intérieur comme de l'extérieur. L'histoire est simple, c'est une enfant abandonnée, recueillie par un couple, et cet enfant grandit et un jour découvre qu'elle a été adoptée. Mais entre-temps, le couple, lui, n'a pas cessé de se déchirer. De se déchirer parce que l'homme est très mal dans sa peau. La femme culpabilise parce qu'elle pense qu'elle n'est pas une bonne mère. Et l'enfant, l'adolescente est en révolte. Elle est en révolte.
Donc c'est une crise totale dans la cellule familiale, en fait.
C'est une crise dans la cellule familiale, mais qui est aussi, je dirais, l'écho de ce qui se passe à l'extérieur.
Dans la société.
Dans la société, voilà. Parce que la plupart de ces personnages sont des déracinés. Et en étant déracinés, ils rêvent de s'accrocher à la culture du lieu où ils se sont installés, mais ce n'est pas si évident que ça. Alors, chacun essaie par tous les moyens, en tout cas à sa manière, selon sa force de caractère ou selon ses désirs, de se créer une place au sein de cette famille. Mmh. Et effectivement, l'enjeu reste quand même cette adolescente qui s'appelle Landine et qui a besoin de savoir d'où elle vient, de se comprendre, de se connaître. Alors, elle met quasiment en péril l'équilibre de la famille, mais pour elle, c'est constamment un test, c'est constamment une manière d'éprouver les sentiments de ses parents.
Alors c'est très important, en effet, c'est une quête des origines finalement, hein, puisque vous dites qu'elle a besoin de se trouver. Vous dites évidemment justement qu'elle s'appelle Ondine, c'est une référence à Rusalka, Ondine, l'Ondine de Dvořák, d'Antoni Dvořák. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer justement ce parallèle entre cet opéra et votre pièce, hein? Qu'est-ce qui vous a séduit peut-être dans cet opéra?
Alors, à l'origine déjà, tout mon travail théâtral se fait dans une sorte de relecture de mythes. J'aime bien montrer que le mythe explique encore aujourd'hui ce que nous sommes. Et que le mythe, est, quel que soit son lieu d'origine, quelle que soit sa culture d'origine, le mythe est une sorte de patrimoine mondial et appartient à tous les êtres humains qui peuvent s'y reconnaître. Sur mes multiples voyages à Prague et en République tchèque, j'ai rencontré un personnage qui m'a paru tellement familier, qui est Vodnik. Je me suis intéressé à lui et j'ai un peu essayé de savoir ce qui s'était fait autour de ce personnage-là. Et ça m'a ouvert, évidemment, le mythe lui-même, le mythe d'origine, qui est différent de Rusalka. Et effectivement, je me suis intéressé à Rusalka, je suis allé à l'opéra, j'ai vu, j'ai suivi, la musique m'a fasciné. Et donc, je m'étais juré de revenir travailler à Prague pour écrire une pièce qui était centré sur ce mythe-là, et ça a donné Ondine. Dvořák, lui, il crée un personnage qui part de son lieu d'origine, qui est Ondine, qui est déjà une grande femme, une jeune femme, et qui tombe amoureuse d'un être humain. Mais moi, mon Ondine à moi, elle n'est pas encore une femme, ce n'est qu'une adolescente, qui a besoin de s'affirmer, de trouver son espace. Mais dans les deux cas, ce sont deux exils. L'Ondine de Dvořák vient dans le monde humain, elle est amoureuse du prince et elle pense que c'est réciproque, mais le prince est un goujat et évidemment la trompe. Et donc, elle en meurt de tristesse. Et mon Ondine à moi ne meurt pas, elle se barre, elle résiste.
Voilà, et puis comme chaque lundi, place maintenant à la rubrique sportive avec Guillaume Larguet, une rubrique dans laquelle en ce début de saison hivernale, il sera question de saut à ski et de ski de fond.
Sport en République tchèque.
Pas de vent trop violent comme l'année dernière qui avait entraîné l'annulation de toutes les épreuves. De la neige, certes oui, mais pas de trop et surtout pas d'abondantes chutes comme aussi l'année dernière. Et enfin, un temps relativement ensoleillé mais pas trop chaud quand même. Le week-end de Coupe du Monde de saut à ski a été une réussite presque totale sur les tremplins d'Arachov dans les Monts des Géants ou Krkonoše en Bohême du Nord. Et cela fait bien longtemps que cela n'avait plus été le cas. À cette époque de l'année, il s'agit même d'un petit miracle. L'année dernière encore, à la même époque, en raison de conditions météorologiques capricieuses, les organisateurs avaient été contraints d'annuler les deux concours du week-end au grand regret des milliers de spectateurs qui avaient fait le déplacement. Cette année, rien de tout cela, donc les deux concours individuels, vendredi et dimanche, et le concours par équipe samedi, se sont tenus dans d'excellentes conditions. Et tout aurait été parfait s'il n'y avait pas eu la terrible chute du meilleur sauteur tchèque actuel, Roman Koudelka, lors des qualifications jeudi. Une chute qui a fait froid dans le dos après que la fixation de son ski droit se soit rompue, le champion du monde junior 2007, qui se trouvait à environ 1 mètre au-dessus du sol, mais à une vitesse encore de 100 km/h, a perdu le contrôle de ses gestes et s'est retrouvé complètement déséquilibré à la réception de son saut. Roman Koudelka a alors atterri violemment sur la neige, sa tête heurtant le sol. KO. Le sauteur tchèque a d'abord tenté de se relever avant de retomber, désorienté et incapable de conserver l'équilibre. Secouru sur le champ, Roman Kodalka a été transporté à l'hôpital où les examens ont décelé une commotion cérébrale mais pas de fracture. Plus de peur que de mal donc pour le Tchèque, présent dès dimanche au pied des tremplins pour encourager ses partenaires, mais néanmoins contraint de faire une croix sur ses ambitions de podium devant son public. On écoute Roman Kodalka.
Je ne vais pas sauter, ce serait trop risqué. Ma concentration n'est pas optimale, pas plus que l'équilibre et la coordination des gestes. Dans ces conditions, mieux vaut être prudent. Mercredi prochain, nous irons à Ramsau, en Autriche, où j'effectuerai d'abord quelques sauts sur le petit tremplin, histoire de retrouver de bonnes sensations. Et il y aura ensuite, le week-end prochain, à Engelberg, en Suisse, deux concours de Coupe du Monde.
Malgré l'absence de leurs meilleurs éléments, les Tchèques ont toutefois fait plutôt bonne figure sur le grand tremplin d'Arachov, et notamment Lukáš Hlava, huitième du premier concours individuel vendredi, grâce à deux sauts respectifs à 121 mètres et 128 mètres et demi. Un classement parmi les 10 premiers qui a quelque peu surpris Lukáš Hlava lui-même.
C'est inattendu pour moi, c'est donc un grand plaisir, surtout que mon premier saut, avec un peu de vent dans le dos qui m'a rabattu sur la piste, n'a pas été parfait. Au moment du deuxième saut, j'ai donc d'abord fait attention à être dans le bon timing pour avoir la meilleure impulsion possible lors de la prise d'envol. Et je dois dire que ça m'a plutôt bien réussi.
Ce premier concours a été remporté par l'Autrichien Gregor Schlierenzauer, qui à 21 ans a ainsi signé sa 36e victoire en Coupe du Monde. Son compatriote Andreas Köffler, imbattable depuis le début de saison en Coupe du Monde, a lui dû se contenter de la 18e place. Cette domination autrichienne était également attendue pour le concours par équipe samedi, mais à la surprise générale, c'est la Norvège qui s'est imposée. L'Autriche, pour la première fois depuis un an et demi, ne remportant donc pas un concours par équipe, et ce, au grand plaisir du sauteur norvégien Tom Hilde.
C'est une sensation formidable de gagner aujourd'hui. Cela fait déjà un long moment que cela ne nous était plus arrivé. Nous avons beaucoup travaillé pour y arriver, mais les Autrichiens sont vraiment très forts ces dernières années. C'est vrai qu'ils n'étaient peut-être pas dans un excellent jour aujourd'hui, mais de notre côté, nous avons aussi prouvé que nous étions en train de progresser.
Les Tchèques, eux, malgré l'absence de Roman Kodalka, ont pris une honorable 6e place, un classement satisfaisant selon leur entraîneur David Jirotek.
À première vue, on pourrait dire qu'il s'agit d'une 6e place tout à fait habituelle et ordinaire pour nous. Mais il ne faut pas oublier l'absence de Kodalka, notre meilleur élément. Hlava est donc devenu le leader de l'équipe, et si cela avait été un concours individuel, il serait peut-être monté sur le podium. Je suis donc content de ce classement, je pense que nous serons encore plus forts avec Kodalka, et c'est pourquoi j'ai remercié les garçons pour leur performance.
Enfin, le deuxième et dernier concours individuel, dimanche, a confirmé que les Autrichiens n'étaient probablement pas dans les meilleures dispositions à Arachov. C'est en effet l'Allemand Richard Freitag qui s'est imposé avec des sauts à 129 mètres et 137 mètres et demi pour ce qui constituait le premier succès de sa carrière en Coupe du Monde. Disputé comme les jours précédents dans des conditions quasi idéales, sans vent et avec du soleil, ce deuxième concours individuel a confirmé que le week-end Coupe du Monde de saut à ski a bien été une réussite à Arachov. Le mot de la fin à l'entraîneur tchèque David Jirotek, qui n'a pas hésité à comparer l'organisation d'Arachov à celle des meilleurs concours et tremplins dans le monde.
La préparation du tremplin, tout ce qu'il y avait aussi autour des concours, je pense que tout cela était du niveau de la tournée des quatre tremplins, c'est-à-dire à ce qui se fait de mieux en matière de saut à ski. Et puis, les conditions météo ont été excellentes. Il y avait de la neige, du soleil et pas de vent. Mais on ne peut pas être malchanceux tout le temps non plus.
Et puis on termine avec un mot de ski de fond. Lukáš Bauer est le premier skieur tchèque, toute discipline de ski de fond et ski alpin confondu, à être monté sur le podium d'une épreuve de Coupe du Monde cette saison. Le Tchèque, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2007-2008 et double médaillé lors des derniers Jeux Olympiques de Vancouver, a terminé troisième du 30 km style libre disputé samedi à Davos, en Suisse. Lukáš Bauer a été devancé de près d'une minute par le Norvégien Petter Northug et de 8 secondes par le Français Maurice Magnificat. Malgré le gouffre qui le sépare encore de Petter Northug, le Tchèque, spécialiste du style classique, était satisfait de sa performance à l'arrivée.
Je m'attendais plutôt à un classement autour de la 10e place. Alors bien entendu, cette 3e place est une excellente chose. Surtout, elle me gonfle d'optimisme dans la perspective du tour de ski, qui est le grand objectif de ma saison. Tout semble pour l'instant plus ou moins aller dans la bonne direction et selon mes prévisions.
Désormais, Lukáš Bauer va poursuivre sa préparation en vue du tour de ski, une compétition dans laquelle il aimerait de nouveau bien figurer après ses deux victoires en 2007-2008 et 2009-2010 et sa 3e place la saison dernière. En cette saison, au programme de laquelle ne figurent ni Jeux Olympiques ni Championnats du Monde, ce tour de ski constitue le principal objectif pour le meilleur fondeur tchèque de ces dernières années.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.